C'est probablement le texte, le passage à cause duquel les antiquités juives ont eu tant de succès à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est-à-dire que c'est un texte, un manuscrit qui a été recopié, qui a été travaillé par les érudits. À cause de ces quelques lignes qu'on va lire maintenant, et qui se situe au moment où Flavius Josèphe raconte le premier siècle, l'histoire du premier siècle en Judée, et notamment il a parlé de Ponce Pilate juste avant, il parlera de Ponce Pilate juste après, et il nous dit, vers ce temps-là, vivait Jésus, un homme sage, si du moins il faut l'appeler homme. En effet, faiseur d'œuvres extraordinaires, maître de gens qui recevaient avec plaisir la vérité, il attirait à lui beaucoup de juifs, mais aussi beaucoup d'hommes du monde grec. C'était le Christ. Et Pilate, l'ayant sur dénonciation des premiers citoyens de chez nous condamnés à la croix, ceux qui au début l'avaient aimé ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient dit. Cela et des milliers d'autres merveilles à son sujet. Jusqu'à aujourd'hui, la lignée des chrétiens, nommée à partir de lui, ne s'est pas tarie. Ça a de quoi surprendre, hein, écrit par un juif, une confession de foi chrétienne. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique à l'article Christianisme, s'adresse cavalièrement à Flavius Josèphe en lui disant « Si tu ne l'avais cru Christ, tu aurais donc été chrétien. » Oui, c'est quand même bizarre. Alors, ça a alimenté des débats très nombreux sur l'authenticité de ce passage. Certains commentateurs considèrent qu'il est authentiquement, qu'il est intégralement authentique. D'autres le réfutent, considèrent que c'est un ajout. Et d'autres proposent de distinguer un fond originel et des interpolations qui ont été faites à une époque plus tardive. Il se trouve qu'on a un historien arabe chrétien qu'on appelle Agathus de Membidj et qui vit à la fin du Xe siècle, donc peu avant l'an 1000, qui cite le texte, ce texte-là de Flavius Josèphe sans certains passages. Et justement, les passages qu'il ne cite pas, c'est « Si du moins il faut l'appeler homme, c'était le Christ et il leur apparut le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient dit. » Donc voilà, la position aujourd'hui de beaucoup de chercheurs, c'est de considérer que peut-être que ces trois passages sont des interpolations chrétiennes dans l'œuvre de Flavius Josèphe, qui nous dirait donc quoi? Qui nous dirait que Jésus était un homme sage. Donc ça, on peut tout à fait le recevoir. On sent bien que le « si du moins il faut l'appeler homme » semble pointer vers une dimension d'un Jésus fils de Dieu. Un Jésus thaumaturge, faiseur d'œuvres extraordinaires, un maître à penser, dont on nous précise, et là ça peut être c'est intéressant de la part de Flavius Josèphe parce que ça reflète certainement le contexte dans lequel il écrit, c'est-à-dire que ceux qui deviennent disciples de ce Jésus, même après sa mort, sont à la fois des juifs et des hommes du monde grec, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui des pagano-chrétiens. Condamné à mort par Pilate sur dénonciation des Juifs, avec des tas de gens qui continuent à le suivre, et puis, alors, on voit, il y a mes petits signes cabalistiques ici, mais sinon vous devinez que sur la dernière ligne, la lignée des chrétiens nommés à partir de lui ne s'est pas tarie. Ça c'est intéressant puisque c'est la remarque de l'auteur au moment où il écrit, donc, dans les années 85, donc visiblement il connaît des gens qui se disent les chrétiens, les christianos, et qui sont nommés à partir de ce Christ. La question étant, qu'est-ce que ça veut dire pour Flavius Josèphe, ou pour un lecteur de culture grecque, de désigner quelqu'un comme Christ? Alors, Flavius Josèphe, il est juif, donc il sait que Christ est la traduction de Messie, et il voit ce que c'est qu'un Messie, donc quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu pour être le chef du peuple. Mais pour un lecteur de culture grecque, imaginons que Vespasien, non, alors Vespasien il est mort, imaginons que Titus lise ce texte, qu'est-ce qu'il comprend de Christ et de chrétien? C'est pas évident, et il y a une autre mention du mot Christ dans l'œuvre de Flavius Josèphe, qui est Jacques, le frère de Jésus appelé le Christ. Donc voilà, ce surnom de Christ est assez répandu pour que quelqu'un qui ne se définit pas lui-même comme un chrétien l'utilise pour parler de ce Jésus. Probablement parce que les disciples de ce Jésus se définissent désormais comme christianoï, donc avec ce nom-là. C'est déjà pas rien, hein. Vous vous souvenez que dans le texte des Actes, chapitre 13, on nous dit que c'est à Antioche que les chrétiens reçurent pour la première fois ce nom de chrétien. Mais vous vous souvenez aussi que l'auteur des Actes nous dit bien que les chrétiens, c'est ceux de la voie, c'est les frères. Ils n'utilisent pas au début le renom de chrétien pour se définir. Donc c'est probablement une appellation qui vient de l'extérieur. Et Flavius Josèphe est peut-être un des premiers témoins qui nous dit que les chrétiens eux-mêmes choisissent de s'appeler comme ça. Donc, ce document-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'est pas en contradiction avec les textes devenus canoniques, mais on discute de son authenticité au moins sur ces trois passages-là, qui en plus ne sont pas dans toutes les transmissions du texte. On change d'univers culturel et on va voir un auteur latin que vous avez traduit dans vos classes, si vous avez la chance de faire du latin. Ce passage de Tacite a un point commun, c'est qu'il explique aussi l'origine du nom de chrétien à partir du nom de Christ. Mais avec un raisonnement, vous allez voir qu'il est différent puisqu'il va, lui, des chrétiens vers le Christ. Pourquoi ? Parce que Tacite, au livre 15 des Annales, donc des récits année par année de l'histoire de Rome, explique qu'il y a eu rapporte l'incendie de Rome et explique que la rumeur accusait Néron, qui pour se dédouaner a rejeté la faute sur les chrétiens. Et il va exposer les tortures dont furent victimes les coupables désignés, donc les chrétiens. Alors j'ai laissé de côté les tortures, mais voilà juste la phrase de Tacite. L'auteur de leur nom, Christ, donc Néron a accusé les chrétiens. L'auteur de leur nom, Christ, avait été livré au supplice sous le principal de Tibère par le procurateur Conspilate. Donc c'est intéressant parce que là, on n'a plus le nom de Jésus. Donc je me suis dit que j'aurais pu jouer sur le titre que m'avait proposé Marie-Christine Duchaud en disant Jésus dans les sources hors du Nouveau Testament. Ben, je ne vous montre pas ce texte-là, parce qu'il ne parle pas de Jésus, hein, il ne parle que du Christ. Donc un personnage qui est connu sous ce nom de Christ, qui est rapporté à un autre personnage qui est Ponce Pilate. Donc intéressant, puisque Flavius Josèphe, je vous ai dit, nous donnait son passage entre deux récits de la mandature de Pilate en Judée. Ici, le Christ est rapporté aussi à celui qui l'a mis à mort, mais il est désigné comme procurateur. Donc moi, comme Pilate, c'est le sujet de ma thèse, là je peux m'arrêter et vous parler des heures, il n'y a pas de problème. Mais en gros, ça a été un débat parmi les historiens, et on pense aujourd'hui que Pilate n'était pas procurateur, mais préfet, et que la Judée avait des préfets jusqu'à une réforme qui a eu lieu en 46 de notre ère, sous l'empereur Claude, au cours de laquelle des régions comme la Judée ont été gérées par des procurateurs et pas par des préfets. Procurateur, c'est une charge entièrement administrative, préfet, c'est militaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a une commande sur l'armée directe, alors que le procurateur n'est pas un militaire, c'est un administratif. Donc c'est le signe d'une province qui était pacifiée, en fait. Donc, voilà, peut-être que Tacite, comme il écrit vers 110 de notre ère, il considère que Pilate devait être procurateur, parce qu'à son époque, c'était procurateur. Condamné au supplice, on ne peut pas savoir de quelle peine il s'agit exactement. À quelle époque ? Sous Tibère. Tibère, empereur de 14 à 37. Donc, voilà, ça va bien. Mais voilà, pas de mention de Jésus et pas de mention de ce qu'il a fait, à part le supplice. Est-ce que vous ne manqueriez pas de chaises un peu là-bas ? Non, ça va ? Parce qu'il reste des chaises, hein ? Il y en a même une au premier rang, si vous n'êtes pas timide. Hein. Donc voilà, pour notre Tacite en latin, c'est un témoignage qui est fondamental, mais qui est assez vrai. Et dernier témoignage, alors on est toujours en latin, mais c'est un genre complètement différent. C'est-à-dire que Tacite, il écrit en historien. Donc il regarde rétrospectivement ce qui s'est passé, il dit Néron les chrétiens, qui sont les chrétiens, et il explique. Avec Pline, on est dans une situation différente. Pline est légat de l'empereur, donc représentant de l'empereur, dans les provinces de Bithynie et du Pont. Donc, le Pont, c'est le Pont-Euxin, c'est la mer Noire, hein, donc il est dans le nord de la Turquie, autour des années 110 aussi. Et Pline est très copain avec Trajan. Alors, c'est pas que les légats des empereurs avaient l'habitude d'entretenir une importante correspondance avec l'empereur, c'est juste que Pline et Trajan s'entendent très bien. Et donc Pline écrit très régulièrement à Trajan, il parle de choses et d'autres, on a aussi les réponses de Trajan. Mais là, dans cette lettre-là, il lui fait part d'un problème. On reçoit beaucoup de dénonciations sur les chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les poursuit tous sans distinction d'âge ? Est-ce qu'on les envoie à Rome, si ce sont des citoyens romains ? comment est-ce qu'on accueille les dénonciations, parce que c'est pas des gens, c'est pas très gênant, mais bon, comme ils sont dénoncés, il faut faire quelque chose. Et Trajan répond qu'il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de raison de les poursuivre d'office, il n'y a pas de raison de chercher s'ils sont les chrétiens pour les mettre à mort, mais s'ils sont dénoncés, il faut examiner leur situation, et surtout, ça c'est ce qui intéresse le plus Trajan, pas de dénonciation anonyme. Une dénonciation, c'est un acte citoyen, donc ça doit être signé par un citoyen. Et donc Pline explique un peu ce que c'est qu'un chrétien en disant qu'il ne voit pas vraiment de raison, de... enfin, ce n'est pas des mauvais bougres. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? Donc c'est le paragraphe 7. Ils affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un Dieu, de s'engager parcièrement non à perpétrer quelques crimes, mais à ne commettre, donc ils s'engagent parcièrement, à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. Ces rites accomplis, ils avaient coutume de se séparer, de se réunir encore pour prendre leur nourriture, qui, quoi qu'on dise, est ordinaire et innocente. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Vous me direz, ça ne vous dit pas grand-chose de Jésus, c'est vrai, mais quand même. Visiblement, Pline a bien compris l'enjeu, puisqu'il dit que les chrétiens chantent un hymne au soleil comme à un dieu. Christo quasi Deo. Là, c'est intéressant parce que c'est... je vous ai épargné tout un tas de débats qui viennent dans les 30 ou 40 années qui précèdent la façon dont les Romains commencent à percevoir que parmi les Juifs, il y a des dissensions. Là, on arrive à un moment où Pline ne nous dit pas « ce sont des Juifs ». Pline nous dit « ils chantent des hymnes au Christ comme à un Dieu ». Donc on a vraiment l'émergence là, d'une nouvelle religion, d'un nouveau groupe religieux qui reconnaît, du point de vue de Pline, une autre divinité. On ne les associe pas aux Juifs. Et il y a trois fois le mot « Christ » dans cette lettre de Pline, mais jamais le nom de Jésus. Donc effectivement, pour l'instant, on a une boisson qui est assez décevante pour Jésus en dehors du Nouveau Testament. Oui, on a Flavius Josèphe qui donne le nom de Jésus qui a vécu sous Pilate. Sinon, Tacite et Pline qui nous parlent du Christ pour nous relier ce nom de Christ à la pratique des chrétiens. Donc ça veut dire que ce n'est pas Jésus, la personne qui les intéresse, c'est le signe de ralliement de ces populations qu'on commence à identifier. Dans les deux cas, dans des contextes de souffrance. Hein, supplicier après l'incendie de Rome ou dénoncer ici. Je crois que je ne peux pas ajouter grand-chose sur les textes non chrétiens. Ça me permet de passer à une deuxième catégorie de textes qui nous parlent de Jésus dans les premiers siècles, mais qui sont, eux, des textes chrétiens. Donc ce sont des textes qui datent à peu près de la même époque que les textes du Nouveau Testament, dans la réalité un tout petit peu plus tardif pour les textes dont on va parler ce soir, c'est-à-dire ce soir on va parler de textes qui sont écrits au IIe siècle, et plutôt dans la première moitié du IIe siècle. L'écrit le plus tardif du Nouveau Testament, c'est probablement la deuxième épître de Pierre, qui doit dater de 110. Vous voyez que c'est aussi la deuxième moitié du IIe siècle. Disons qu'on est dans les mêmes époques. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour pas qu'on dise que ce sont des textes qu'on appelle apocryphes, parce qu'ils sont écrits après les textes canoniques. Non, ça n'est pas une question chronologique. Il peut y avoir des textes qui sont même antérieurs. La question est autre part. C'est une littérature qui a pour caractéristique d'être pseudépigraphique. Alors, c'est pas un mot savant, hein, vous savez tous ce que c'est qu'un pseudonyme. Et bien, une littérature pseudépigraphe, c'est une littérature qui met un faux nom d'auteur. C'est-à-dire que sur la première page, au lieu de mettre le nom de la personne qui a tenu le calame, on met le nom d'un apôtre. Dans l'Antiquité, le rapport à la propriété intellectuelle n'est pas le même que le nôtre. Hein. Se placer sous le patronage d'un apôtre, ça n'est pas faire un faux, c'est se mettre sous l'autorité d'un maître. Et c'est probablement aussi ce qui s'est passé pour les évangiles de Jean, de Matthieu, de Marc, de Luc. Ils n'ont pas nécessairement été écrits par une personne qui s'appelle Matthieu, Jean, Marc ou Luc, mais ils sont placés sous l'autorité, parce que la Voilà, les communautés y sont été écrits, revendiquer cette autorité-là. C'est une littérature qui est narrative, donc qui raconte des histoires. Alors, pas toujours des histoires comme on aimerait qu'on nous en raconte, mais voilà, ce ne sont pas des commentaires, ce ne sont pas des hymnes liturgiques, ce sont des récits. Et ce sont des récits qui ressemblent, enfin, qui sont du même type de ceux qui sont dans le canon. Donc, par exemple, je vais parler d'évangiles. Les seuls évangiles que nous connaissons d'habitude, c'est ceux qui sont dans le canon. Là, on va parler d'évangiles qui ne sont pas dans le canon, mais il y a aussi des apocalypses, des épîtres, des actes. Donc, du type de ceux qui sont dans le canon, mais qui, soit n'ont eu qu'un rayonnement local, donc étaient lus par des chrétiens d'Égypte, mais uniquement d'Égypte, de Syrie, mais uniquement de Syrie, soit par des communautés qui étaient en marge de ce qu'on appelle la Grande Église. Donc, je ne rentre pas dans ce qu'est la Grande Église, mais en gros, c'est celle dont les chrétiens descendent. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est parmi cette « et » du départ, c'est celle qui va faire un arbre. Donc, il n'en reste pas au statut du buisson. Évidemment, quand on est au 1er et 2e siècle, on ne peut pas savoir quel est le mouvement qui va devenir le plus porteur. Mais nous, avec notre regard rétrospectif, on appelle la Grande Église le mouvement chrétien qui va devenir majoritaire. Et alors, je vais prendre une autre métaphore pour dire que ces textes n'ont pas de prétention à entrer dans le canon. D'abord, le canon en tant que tel n'est pas vraiment constitué. Et puis, il n'y a pas de question de concurrence. C'est juste qu'il y a des communautés à tel endroit qui lisent l'évangile de Jean et l'évangile de Thomas. Il y a des communautés qui disent l'évangile de Jean, de Matthieu, de Marc et de Luc. Il y a des communautés qui disent ces quatre-là, plus Thomas, plus Judas, plus un autre. Voilà. L'image qu'un des auteurs contemporains utilise, c'est celle de l'archipel. C'est-à-dire pas se représenter l'Église comme un continent bien unifié. Dans tout l'Empire romain, on croit la même chose, on dit la même chose, on a les mêmes rites. Pas du tout. Dans les 1er et 2e siècles, c'est un chrétien en Syrie, en milieu rural, vers 150 de notre ère, c'est pas la même chose qu'un chrétien en Syrie, en milieu urbain, vers 150 de notre ère. Et donc, vous pouvez l'étendre, c'est pas la même chose qu'un chrétien à Alexandrie, vers 120, c'est pas la même chose qu'un chrétien à Marseille, vers 150, etc. Vraiment, c'est un archipel dans une grande diversité, christianisme palestinien, galiléen, alexandrin, éphésien. Et toute cette archipel produit des écrits divers. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 2e siècle, il y a eu un certain Irénée de Lyon, dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, qui a un peu créé ce mythe de l'unité. C'est-à-dire qu'il a créé cette idée que la vérité, alors que non seulement la vérité était une, mais qu'elle avait toujours été, et qu'il y avait une descendance directe, Jésus, les apôtres, les évêques. Et donc il a relu en fait 2 siècles d'histoire, de façon très monolithique. Mais voilà, on n'est pas obligé de croire Irénée. Irénée, il essayait de défendre une idée, la sienne. C'est celle qui l'a emportée, c'est celle dont on est les héritiers. Mais plus il nous dit qu'il y a une unité, plus on comprend qu'il y a une diversité. Il réagit par rapport à l'autre. Donc je vais vous proposer de plonger dans la diversité des christianismes anciens. Une idée tout de suite à bannir, c'est vrai que apocryphe en grec veut dire caché, mais surtout, aujourd'hui, ça n'est plus du tout des écrits cachés, et donc il est encore temps de vous faire offrir pour Noël la Pléiade des écrits apocryphes chrétiens, les Pléiades, 2 volumes. Donc c'est rigolo parce que c'est les apocryphes sur papier Bible. Voilà. Je voulais pas apporter parce que vous savez tous ce que c'est qu'une Pléiade, mais voilà, si vraiment vous voulez lire aujourd'hui les apocryphes dans une traduction française avec des notes et une introduction qui sont vraiment tout à fait compréhensibles, mais qui sont aussi vraiment très sérieuses, voilà, le dernier travail magistral qui a été fait par une équipe d'ailleurs qui est à la fois composée de catholiques et de protestants de façon structurelle, les facultés de Strasbourg, de Paris et de Lausanne principalement, c'est la bibliothèque de la Pléiade. Je vous montrerai aussi, tout à l'heure, je mettrai à votre disposition sur les tables, 4 ouvrages qui peuvent être intéressants, qui sont vraiment accessibles. Jens Schröter, qui est traduit de l'allemand aux éditions Labor et Fides, sur les évangiles, particulièrement les évangiles apocryphes, donc Jésus, donc c'est qu'une catégorie des apocryphes, les évangiles, mais c'est peut-être la plus populaire et c'est lisible. Plus lisible encore, le petit volume sur les apocryphes, de Régis Burnet, c'est Paroles en liberté, donc c'est aussi des éditions lausannoises, il me semble. Voilà, très lisible, vous bien respecté, là pour une découverte du christianisme ancien par le prisme des apocryphes, c'est vraiment super. Alors peut-être un petit peu plus technique, mais vraiment de grande valeur, mais c'est peut-être le niveau 2 si vous avez déjà lu le niveau 1, le Jésus apocryphe de Jean-Daniel Dubois, qui est dans la collection Jésus et Jésus-Christ. Et donc voilà, c'est le 100e volume de la collection, donc un peu comme la brebis perdue, vous voyez, celle qui revient, on laisse tout pour aller la chercher. Et là, c'est plus érudit, mais ça se lit quand même, moi je trouve que ça se lit quand même très bien, parce qu'il y a beaucoup de petites histoires. Et celui-là, vous l'avez sans doute déjà chez vous, c'est l'Évangile de Judas, qui a été publié il y a 20 ans. Et on en reparlera tout à l'heure, mais je vous ai apporté le volume parce que c'était pratique. Et parce que comme il a été publié il y a 20 ans, il n'est pas dans la Pléiade, qui est sortie juste avant, on verra pourquoi. Alors, je vais distinguer, donc on va lire des sources qui sont fondamentales pour l'histoire du christianisme dans sa diversité. On va lire des textes qui se pensent chrétiens, qui se considèrent comme chrétiens, dont les auteurs se pensent chrétiens, mais dont un groupe de chrétiens a déclaré qu'ils étaient hérétiques. Vous vous souvenez que c'est le principe, et c'est la même chose entre catholiques et protestants au XVIe siècle, celui qui est un peu d'accord avec moi mais pas tout à fait, c'est un hérétique. Et un hérétique, c'est toujours quelque chose de relatif. On n'est jamais hérétique en soi, on est hérétique par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ce qui se joue là entre les communautés, celles qui déclarent que d'autres sont hérétiques, se joue aussi au niveau des ouvrages. Si j'ai un canon, j'ai un ensemble de livres, et donc je déclare mes livres canoniques, et ceux que les autres lisent mais qui ne font pas partie de mon canon, mais sont apocryphes. Et ils n'ont pas besoin d'exister. Et même à une certaine époque, pour certains d'entre eux, on déconseille la lecture. Donc, canon et apocryphe, ce sont des notions qui sont au départ complètement relatives. Dans ces notions, on va faire une distinction, alors c'est moi qui vous la propose, elle n'est pas dans des termes très scientifiques, mais moi je la garde quand même. On va distinguer les apocryphes tympans des cathédrales et les apocryphes sables du désert. Tympan des cathédrales, je vous ai mis la collégiale de Tannes, je vous ai dit que vous étiez tous allés. Le tympan de Tannes, la vie de la Vierge, on a une série des scènes qui racontent la Vierge mais qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Par exemple, ici, le pauvre Joachim qui est obligé de partir du temple parce que visiblement Dieu ne l'honore pas, qu'il n'a pas d'enfant. Le pauvre Joachim qui est au désert et l'ange lui parle. Joachim qui rencontre sa femme Anne à la Porte Dorée et puis la Vierge va être conçue. Et puis là-haut, Joseph qui est bien embêté puisque sa femme, comme vous le voyez, est enceinte. Or, on avait confié cette femme à sa garde, lui n'y est pour rien. Que s'est-il passé ? Voilà, ces épisodes-là, vous ne les avez pas, nous les avons pas dans nos Bibles. Ils se trouvent dans un texte qu'on appelle le Protévangile de Jacques. Protévangile parce que comme la proto-histoire, il raconte ce qui se passe avant l'Évangile. Vous voyez que ce texte-là, visiblement, il n'a pas été banni entièrement. Il a été sculpté sur la façade de la collégiale Saint-Thiébaud, c'est bien parce qu'il était connu, parce qu'il était familier. Alors, il était familier dans une forme particulière du texte, qui a une histoire particulière, mais voilà, c'est un type de récit qui date aussi du IIe siècle, mais qui est arrivé en Occident et qui a toujours été transmis, recopié, de la même façon que les récits sur la mort de Joseph, sont très présents dans l'imaginaire catholique. Pour Joseph, c'est particulièrement vrai à partir du XVIIe siècle. Et là, ce tableau-là, qui est lauréat du concours du plus grand musée de France pour la région Bourgogne-Franche-Comté de cette année, parce que vous savez, on a choisi une œuvre et puis on va donner de l'argent pour pouvoir la rénover. Donc ce tableau-là qui est dans l'église de Morvillard, la mort de Joseph, ben là aussi, c'est un thème qui est apocryphe. Il ne se trouve pas dans le Nouveau Testament canonique, et qui pourtant se trouve dans la piété populaire. Il se trouve exposé, il n'est pas banni, donc il n'est pas hérétique, sinon on ne le rendrait pas dans une église. Donc ça c'est ma première catégorie d'apocryphes, les apocryphes tympans des cathédrales. Et ma deuxième catégorie, les sables du désert, on la verra après. Donc on rentre dans les apocryphes qui ont toujours été connus, qui sont toujours connus, et la question donc c'est qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur Jésus ? Alors, le premier dont on va parler s'appelle « Histoire de l'enfance de Jésus ». On l'appelle aussi parfois « Évangile de l'enfance du pseudo-Thomas »,« Évangile de l'enfance de Thomas ». Mais comme depuis 70 ans, on a un autre évangile de Thomas, d'un autre contexte, on lui a un peu changé son titre pour ne pas confondre. Donc cette histoire de l'enfance de Jésus, elle appartient à l'ensemble des textes qui se rattachent à Marie et à l'enfance de Jésus. Quel est le but de ces textes? Le but de ces textes est de nous parler de l'identité du Fils. C'est-à-dire que la question, c'est la question de la divinité de Jésus. Vous savez que dans l'Antiquité, parmi les différents mouvements chrétiens, un certain nombre de mouvements qui considèrent que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Il est plutôt homme adopté par Dieu, éventuellement adopté à son baptême. L'esprit descend sur lui, la voix résonne, et donc là, il devient vraiment 100% Dieu. Mais voilà, dans l'Antiquité, il y a vraiment des débats sur savoir qui est né. Est-ce que celui qui est né est Dieu, plus Dieu qu'homme, plus homme que Dieu, et ce qui va se fixer, c'est autant homme que Dieu. Mais ça, il faut 4 siècles pour arriver à ça. Au départ, ce n'est pas établi. Et la question de la divinité de Jésus, forcément, elle va aller avec un certain nombre de textes sur la virginité de Marie. Parce que tous les tenants d'un Jésus plus Dieu que homme vont être des tenants aussi de la virginité de Marie. On va essayer d'expliquer cette divinité. Là, le texte qu'on va lire cherche surtout à montrer que Jésus, dans son enfance, est déjà Dieu. Donc visiblement, en opposition au mouvement chrétien qui considère que Jésus devient Dieu au moment du baptême. Et ce texte-là, alors, ce qui est compliqué avec les apocryphes, c'est que c'est encore plus difficile que pour les évangiles canoniques de donner des dates et de structurer les textes. C'est probablement un texte du IIe siècle, mais qui n'est pas très bien tissu. C'est un agglomérat de traditions, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu plusieurs histoires sur Jésus qui ont été mis ensemble, et le texte qu'on peut lire aujourd'hui dans la Pléiade, il y a des doublés, il y a des répétitions, mais alors ça a eu un succès incroyable. C'est-à-dire que c'est un texte qui existe en grec, qui est sa langue d'origine, en syriaque, en latin, en slavon, en éthiopien, en arabe, en arménien, en vieil irlandais. Donc voilà, extrêmement populaire, parce que finalement, il n'est pas du côté des textes hérétiques, il est du côté des textes de la Grande Église. Puisque la Grande Église est allée vers cette position d'un Jésus autant homme que Dieu, un texte qui montre que Jésus dans son enfance est déjà Dieu, a déjà tous les pouvoirs de Dieu, ça va tout à fait dans le sens de la Grande Église. Alors je suis d'accord que les évangiles canoniques ne disent pas grand-chose sur l'enfance de Jésus, c'est peut-être aussi pourquoi ces textes ont eu succès, parce qu'ils remplissent un blanc qui a été laissé. Si on lit Luc, on a Jésus tout bébé, on le retrouve à 12 ans, et puis on le retrouve à 30 ans. C'est quand même un peu frustrant. Donc là, on va avoir tous les épisodes de Jésus, alors surtout entre 5 et 12 ans. Et voilà, une des choses qui fait, c'est la première histoire qui est racontée. Alors qu'il était un enfant âgé de 5 ans, Jésus était en train de jouer près du gué d'un ruisseau. Il faisait couler de l'eau, la dirigeant vers une flaque afin de la rendre claire. Ensuite, il tira de la vase de l'argile molle et en façonna 12 oiseaux. C'était alors le jour du sabbat, et beaucoup d'enfants jouaient avec eux. Un juif le vit en train de faire cela avec les enfants, il alla vers Joseph son père et accusa Jésus en disant « Il a fait de la boue, il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat, où il n'est pas permis de le faire. » Et Joseph étant arrivé, le réprimanda, Jésus, en disant « Pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qu'il n'est pas permis de faire ?» Mais l'ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s'envoler les passereaux en disant « Allez voler et souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Et les passereaux s'envolèrent en poussant des cris. Ayant vu cela, le pharisien en fut étonné et alla le raconter à ses amis. C'est un épisode dont on vous reparlera peut-être dans les conférences sur Jésus dans le Coran, puisqu'il est aussi mentionné dans le Coran. Vous voyez que Jésus ici façonne avec de la boue, donc c'est tout à fait le geste du Dieu créateur dans la Genèse, dans Genèse 2. Vous voyez qu'il façonne un jour de sabbat, ça fait tout à fait écho aux discussions des évangiles, est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, de guérir ou de ne pas guérir le jour du sabbat. Et donc, il montre les manifestations de la divinité de l'enfant Jésus. Jésus, dès son enfance, conteste ce respect de la loi, en tout cas pour certaines choses qui lui paraissent plus importantes, et est capable, comme Dieu, le Dieu créateur, de donner la vie à des oiseaux à des oiseaux de boue. Donc on montre que Jésus est déjà sage et tout-puissant, de la toute-puissance divine, dès son plus jeune âge. Ça évoque aussi le genre des biographies antiques. Dans les biographies antiques, on montre toujours que les actes du grand homme préfigure en fait les grandes actions d'éclat qu'il va faire une fois qu'il sera au pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait pour notre sujet? Alors, comme apport sur le Jésus historique, je suis d'accord, c'est masse. Mais comme apport sur les débats du 1er siècle sur la question de la nature du Christ, sur la question de la nature du Christ, notamment avant son baptême, là, voilà, c'est fondamental. Et on comprend que le texte ait été conservé puisqu'il soutient cette hypothèse d'un Jésus-Dieu dès les débuts, dès l'incarnation. Ce qui fait qu'il a été connu, vous pouvez me croire sur parole, mais vous pouvez aussi aller vous balader. Par exemple, au plafond de l'église Saint-Martin de Silice, dans le canton des Grisons, dans cette partie de la Suisse où on a du mal à parler allemand avec les autochtones, parce que vraiment l'accent est compliqué, toutes les scènes qui représentent la vie de Jésus sur le plafond de Silice sont tirées des évangiles canoniques, sauf une, où vous voyez Jésus avec son âme crucifère, déjà dans son enfance, un verbe puisqu'il est dans son enfance, qui, par rapport à ses petits amis qui ont fait des oiseaux de circuit qui gardent dans les mains, lui a fait un oiseau de circuit qui s'envole. Donc voilà, le miracle des oiseaux se trouve au plafond de Silice et se trouve aussi, ah non, on n'a pas mis le « il se trouve aussi », il se trouve aussi dans d'autres endroits. Un autre exemple de texte apocryphe qui est parvenu jusqu'à nous et qui a toujours été connu, donc là c'est en tant que récit sur Jésus, une autre façon de les trouver c'est en tant que citation. Ça a été un grand jeu des chercheurs pendant des siècles, c'est de chercher les textes qui sont mentionnés par les auteurs, par les pères de l'Église, par les premiers auteurs chrétiens. Et là, on a un évangile des Hébreux, qui est mentionné par Clément d'Alexandrie à la fin du IIe siècle, qui est mentionné par Origène, qui est aussi d'Alexandrie, au début du IIIe siècle. Jérôme nous dit qu'il l'a traduit en latin, mais on n'a pas la traduction de Jérôme. Et voilà le texte que nous cite Origène. Si c'est pour moi, vous dites que je ne peux pas.
Non,
il n'y a pas de problème. Voilà le texte que cite Origène. Si quelqu'un admet l'évangile des Hébreux, où le Sauveur déclare « Le Saint-Esprit, ma mère, vient de me prendre par un cheveu et de me transporter sur la grande montagne, le Tabor. Il se demandera comment l'Esprit Saint, étant par l'intermédiaire du Verbe, peut être la mère du Christ. » Je ne vais pas rentrer dans le débat d'Origène sur la question de l'Esprit Saint, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il cite. Il cite un évangile des Hébreux. Il dit « si quelqu'un admet ». Ça veut dire « c'est pas dans notre corpus habituel, mais si on choisit de se référer à ce texte-là, voilà ce qui se passe ». Alors évidemment, le Saint-Esprit ma mère, moi je vous ai choisi ce texte-là parce que vous savez que ça vous fait plaisir. Hein, il y en a plusieurs parmi vous qui trouvent aussi que la Trinité est un petit peu trop masculine. Vous savez qu'en hébreu, « esprit roi » est un mot féminin. Donc, on peut imaginer que dans un évangile des Hébreux, peut-être un évangile qui est écrit en langue hébraïque, ou qui est pensé en langue sémitique, le Saint-Esprit soit par nature une entité plutôt féminine que masculine. Il vient me prendre par un cheveu, là ça touche ceux qui sont d'entre vous qui sont familiers des prophètes, dans Ézéchiel, dans Daniel, on a, si le prophète est docile à l'action divine, Dieu n'a qu'à le prendre par ses cheveux pour l'emmener quelque part, ça se passe bien. Et se transporter sur une grande montagne, éventuellement, ça peut nous faire penser à Matthieu 4 et Luc 4. Le diable prend Jésus et l'emmène sur une haute montagne où il fait voir tous les royaumes de la terre. Est-ce que ce serait une forme de variante de cet épisode? Ce ne serait pas le diable qui prendrait Jésus, ce serait le Saint-Esprit. Dans quel but on ne sait pas. Et vous voyez que c'est aussi à la première personne, c'est Jésus qui parle, hein, le Saint-Esprit ma mère. Donc Jésus raconterait la tentation qu'il a subie. Après tout, ce n'est pas idiot. Personne n'est témoin de la tentation au désert. Comment les évangiles canoniques sont en mesure de nous raconter ce que Jésus a vécu tout seul au désert? Pourquoi pas un récit à la première personne? Voilà. C'est peut-être à ça que fait allusion ici Origène. On n'en sait rien, on n'en sait pas plus. Et aujourd'hui, si vous voulez lire l'évangile des Hébreux, voilà ce que vous avez. C'est-à-dire que dans la Pléiade dont je vous parlais tout à l'heure, on met un titre Évangile des Hébreux, et en fait on va chercher chez tous les auteurs patristiques la petite citation, le petit morceau de phrase où il nous parle de ce texte-là. Alors, c'est le seul accès qu'on a à ces textes. On n'a pas trouvé le manuscrit, l'évangile des Hébreux. Il ne s'est pas transmis à travers les siècles. On en a des citations de gens d'une époque où il était encore lu. Mais je suis d'accord, une fois de plus, sur le Jésus, sur l'identité de Jésus, on n'en sait pas beaucoup. Donc voilà pour les apocryphes qui se sont toujours transmis. On va passer à notre deuxième catégorie, c'est les apocryphes sable du désert. Donc sable du désert, ça veut dire les textes qu'on a redécouverts au 19e et au 20e siècle grâce à l'archéologie et parfois grâce au hasard. Alors je vais essayer de parler de trois textes par ordre chronologique d'apparition. Donc je me donne jusqu'à moins 10. J'ai commencé à moins 10, hein, pour ça je propose. Donc j'ai une heure quand même. Hein.
Bon, au moins, hein.
Enfin, ça dépend, si vous voulez aller vous coucher, vous pouvez aussi partir au moment où j'arrête de parler avant les questions. Hein. Alors, les textes des sables du désert, le premier en acte, je reviendrai hein, sur cette image tout à l'heure, le premier en acte, c'est l'évangile de Pierre, qui a été trouvé près de la ville d'Armin, donc là par des missions archéologiques. Des missions archéologiques en Égypte à la fin du 19e siècle, c'est à peu près le moment de la fondation, vous savez qu'il y a des écoles françaises de Rome et d'Athènes qui existent depuis longtemps, et dans les années 1880, on décide la fondation de ce qui va s'appeler plus ou moins l'école du Caire, donc une école française d'archéologie en zone proche orientale. L'idée, c'est d'aller voir dans ces coins-là si, en termes d'archéologie biblique, on ne ferait pas des belles découvertes. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu des belles découvertes qui ont été faites vers 1850 au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Et donc, voilà, on vient un peu à la pêche aux matériaux archéologiques. On fouille une nécropole copte à Arfim et on trouve un manuscrit. Plusieurs feuillets, plusieurs textes, et dans ce texte, à un moment, un personnage dit « Moi, Simon-Pierre ». Or, l'historien Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, l'historien de Constantin, nous parle d'un texte qu'on lisait en Syrie au IIe siècle, et qui s'appelait « L'évangile de Pierre ». On s'est dit « Il nous parle d'un évangile de Pierre », là on a un texte qui dit « Moi, Simon-Pierre ». Ce texte raconte la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, on appelle le texte qu'on a trouvé « Évangile de Pierre ». On ne sait pas si c'est le même. On ne sait pas si le texte dont parle Zèle est le même que celui qu'on a trouvé dans le désert d'Égypte, mais à défaut, on l'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça commence au moment du procès de Jésus. Oui, c'est ça. La première page est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas avant. Est-ce que c'est un accident du manuscrit ? Ou est-ce que le scribe qui a recopié n'a recopié que ça. On se pose la question parce que voilà la dernière page. Le texte s'arrête au milieu d'une phrase, ici. Vous voyez qu'il aurait très bien pu aller sur la page d'après. Donc ça semble laisser penser qu'à un moment, il y a un copiste qui s'est dit « Moi, je vais recopier que ce passage-là, il n'y a que ça qui m'intéresse. » Ce n'est pas forcément ce copiste-là, ça peut être son prédécesseur et puis que lui n'est que recopié. Mais voilà. Donc on commence par l'issue du procès de Jésus avec une situation un peu bizarre parce que Pilate est subordonné à Hérode, c'est Hérode qui prend les décisions. On a le récit des moqueries, de la crucifixion, la mise au tombeau, la requête d'une garde pour le tombeau, donc tout ça, ça nous a fait familier. Et là, il y a un paragraphe unique en son genre qui est que la résurrection est donnée à voir. Donc deux jeunes gens descendent des cieux, entrent dans le tombeau et en ressortent avec un troisième. Et les gardes du tombeau rapportent ça à Pilate. Marie de Magdala et ses amis se rendent au tombeau, trouvent un jeune homme qui leur demande ce qu'elle cherche, s'enfuit, là aussi c'est familier, et les douze, quant à eux, sont dans l'affliction, et Simon-Pierre, c'est là qu'il prend la parole, et ceux qui sont avec lui prennent leur filet, et le texte s'arrête. Donc, je peux que vous conseiller la lecture du texte, c'est très court, ça fait à peu près comme un chapitre dans l'évangile canonique. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus ? Alors, ce n'est pas le meilleur moment d'avoir des choses. Enfin, ça n'est pas le meilleur et pas le meilleur moment, c'est-à-dire que ce n'est pas sur sa vie, son œuvre, c'est sur sa mort et sa résurrection. Mais surtout, ça ne nous parle pas de Jésus, puisque le seul nom qui est utilisé dans le texte, c'est le Seigneur. Curios en grec, comme dans Daniel Ellison. Regardez ici, je vous ai mis, c'est l'abréviation qui est utilisée tout le long du texte, K-S, donc un S en forme de C, l'abréviation du nom Curios, le Seigneur. Donc ça déjà en soi pour nous c'est un indice. C'est un indice de ce qu'on appellerait aujourd'hui une christologie haute. C'est-à-dire que la personne qui écrit ne s'intéresse pas vraiment au Jésus humain. Et d'ailleurs peut-être que ce texte n'a jamais contenu de récit sur la vie et l'enseignement de Jésus. Peut-être que la communauté qui lisait ce texte, la communauté qui a produit ce texte, ne s'intéresse à Jésus qu'en tant qu'il écrit content qu'il est mort et ressuscité. Et finalement, c'est une possibilité, hein, de se dire que l'essentiel, finalement, ça serait que le Fils de Dieu incarné meurt et ressuscite, et puis bon, la partie enseignement, d'autres sages antiques ont pu la faire aussi. Donc voilà, c'est une possibilité pour ce texte-là. On ne s'intéresse pas à l'homme Jésus, on s'intéresse au Seigneur, au Fils de Dieu. On s'intéresse aussi à montrer la réalité de la résurrection. Une particularité aussi du texte, c'est qu'il est très anti-juif. C'est-à-dire que, ben, je vous ai dit, hein, Pilate est soumis à Hérode. Donc clairement, les juifs sont responsables de la crucifixion. Au moment de la crucifixion, il y a une scène un peu cocasse. Vous savez, la nuit se fait au moment de la mort de Jésus. Et donc les juifs se cognent partout parce qu'il n'y a plus de lumière. On sent une scène de moquerie, vraiment, de la part de l'auteur. Et ça, peut-être que ça nous parle d'une époque de dissension entre les juifs et les chrétiens. C'est vraiment une époque où les chrétiens et les juifs ne se reconnaissent plus du tout comme étant issus de la même branche. Donc peut-être un texte qui nous en dit plus sur l'époque où il a été écrit que sur ce qu'il raconte. Et ce qui est vrai aussi, dans certains cas, pour les évangiles canoniques, qui reflètent plus les années 70-80 que les années de la vie de Jésus. Donc je m'arrête là pour l'évangile de Pierre parce que pas beaucoup de choses sur Jésus. Je vous parle de l'évangile de Thomas qui est peut-être un peu plus intriguant de ce point de vue-là. Alors l'évangile de Thomas, il a été trouvé dans la première fois qu'on en a découvert des fragments, c'est dans cette ville au nom bizarre d'Oxyrinthe, donc bec pointu. Une ville donc à peu près 250 km au sud du Caire. Et là le contexte au départ, c'est cette image que je vous montrais. C'est-à-dire deux savants d'Oxford en 1896 qui se sont mis à aller eux aussi fouiller en Égypte en disant qu'ils allaient trouver des trucs comme on avait trouvé des manuscrits au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, comme un Français Bourriand, j'ai oublié son prénom, Bourriand avait trouvé l'évangile de Pierre. De la même façon, deux chercheurs d'Oxford, Grenfell et Hunt, sont allés fouiller dans cette ville d'Égypte qui a une grande existence dans l'Antiquité. Et à Oxyrinque, ils se sont mis à fouiller ce qui est en fait une poubelle, enfin des remblais. Ils ont fouillé leurs remblais et ils parlent de torrents de papyrus. Vous voyez la phrase que je vous ai mise du journal de fouilles de Grenfell, le flot de papyrus est soudain devenu un torrent. C'est-à-dire que vous voyez ces paniers qu'ont les ouvriers égyptiens, ils les remplissent de petits fragments, alors c'est de la taille d'une carte de crédit hein, le plus souvent, mais ce sont des fragments de papyrus qui étaient conservés par la sécheresse du désert égyptien pendant 15 siècles. Et le boulot de Grenfell et Hunt, c'est la nuit, ils récupèrent ces paniers, ils sortent les fragments de papyrus, ils les époussent, ils essayent de les classer rapidement et on en trouve vraiment des milliers. Et le lendemain, on re-remplit les paniers, et voilà. Et ils disent, à des moments, il nous suffisait de marcher sur le sol, de frotter un peu notre pied, et des fragments de papyrus émergeaient. Alors là, on a trouvé beaucoup de choses pas très intéressantes. Des livres de contes de marchands égyptiens, c'est toujours intéressant pour certaines personnes, hein, je suis d'accord, mais c'est moins excitant. On a trouvé aussi un texte qui sera connu plus tard sous le nom d'Évangile de Thomas. On a trouvé aussi le fragment le plus ancien de l'Évangile de Jean, le papyrus 52, qui est aujourd'hui conservé à Manchester. Voilà, c'est vraiment et puis des œuvres de Ménandre, de Chapeau, enfin de la littérature grecque qu'on avait perdu par ailleurs. On avait donc des fragments format carte de crédit, alors là c'est une grosse carte de crédit de l'évangile de Thomas. Vous voyez qu'on n'a pas la ligne entière hein, à chaque fois. On a le début à gauche, et puis après, ça s'interrompt. Donc c'est motivant, mais ça tient quand même plus du jeu de piste. Et alors là, deuxième découverte extraordinaire, c'est à Naganadi, donc beaucoup plus au sud. Alors là, c'est une histoire qui ressemble tout à fait à celle de Qumran. C'est-à-dire que, à la suite d'un hasard de circonstances, deux paysans, en décembre 1945, donc c'est rigolo, c'est les mêmes années que les manuscrits de la mer morte, deux paysans découvrent une jarre enfouie dans le sol avec 13 codex, donc 13 livres, en langue copte, datant du 4e siècle, qui viennent probablement d'un monastère. Leur mère en a sans doute brûlé un, par crainte de ces livres magiques et mauvais. Et puis, ils les ont confiés à un prêtre copte, dont le beau-frère a vendu un des codex au musée copte du Caire, et un savant français qui passait par là l'a étudié, en a mesuré l'importance, et donc progressivement, un marchand d'antiquités les a rachetés, ça a été vendu au musée copte de Caire, c'est toujours une histoire d'argent. Bref, on s'est rendu compte qu'on avait donc 13 manuscrits, 1200 pages, de ce qu'on a appelé la bibliothèque de Nag Hammadi. Donc Nag Hammadi, juste par le nom de la ville. Et les premières éditions et traductions ont été faites au tournant des années 60, et parmi ces textes, dans un de ces codex, on trouve l'évangile de Thomas. Alors là, c'est le titre du texte d'avant, hein, vous souvenez que dans l'Antiquité, la tradition est de mettre le titre. La tradition est de mettre le titre à la fin du texte, donc là, l'apocryphe de Jean se termine, et commence ici l'évangile de Thomas. Et voilà son titre, en copte, mais ça ne vous gêne pas parce que le copte, c'est de l'égyptien écrit en caractère grec. Donc dès que vous avez fait un petit peu de grec, ça se passera très bien. Hein. Vous reconnaissez ici, cette fois il s'appelle I.S., donc c'est Jésus en abrégé, et le texte est écrit par quelqu'un qui s'appelle Didymos, Didyme, Judas, Thomas. Il y a quand même beaucoup de noms. Vous vous souvenez que Didyme et Thomas, c'est la traduction du même mot, hein, Thomas en araméen, le jumeau, Didyme en grec, le jumeau, mais ici, il s'appelle Jude, Didyme, Jude, Thomas. Ce n'est pas le nom qu'on lui trouve dans le Nouveau Testament canonique, mais c'est un nom qu'on lui trouve dans certaines traditions, notamment en Syrie. Donc, c'est trois noms. Et le titre est intéressant parce qu'il nous annonce de quoi il s'agit. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme, Jude Thomas a écrites. Donc, paroles, de fait. L'évangile de Thomas, ce ne sont que des paroles. C'est-à-dire qu'on a 114 fois, c'est en tout cas la numérotation qui a été adoptée, Jésus dit, ou les disciples demandèrent et Jésus dit. On n'a pas d'histoire, si vous voulez. On n'a vraiment que les paroles. Et ce sont les paroles secrètes, qui est tout à fait... un mot qui aurait pu être en grec le mot apocryphe, c'est-à-dire, si c'est des paroles secrètes, ça veut dire que c'est un enseignement ésotérique, pas exotérique, qui est proposé à tout le monde, et que tout le monde doit accéder, mais ésotérique, donc proposé uniquement à des disciples qui sont instruits, qui sont avertis. Et là, vous sentez qu'on va avoir un problème, parce que dans les évangiles canoniques, on dit, la plupart du temps, alors ça arrive, hein, vous vous souvenez, parfois Jésus dit une parabole et dit « je vous explique, mais eux, je ne leur explique pas ». Il y a quand même des moments où Jésus ne parle qu'à ses disciples. Mais globalement, il y a cette idée d'un message qui est pour tous. Et c'est comme ça que le christianisme de la grande église va diffuser, c'est dans la version « pour tous ». Le christianisme qui est exprimé dans l'évangile de Thomas, c'est un christianisme qu'on appelle gnostique, qui se rapporte à la gnose. La gnose, c'est la connaissance. Alors, la gnose en soi, ce n'est pas une religion, c'est une façon d'être, c'est un rapport au monde, c'est le fait de considérer, c'est un peu une constante dans l'humanité, le fait d'être un peu étranger au monde. C'est-à-dire de dire, je sens que mon âme, elle aspire à des réalités supérieures, que mon corps m'empêche de les atteindre, et ça vous le retrouvez dans différentes spiritualités, dans différentes religions, vous le retrouvez aujourd'hui aussi dans certains mouvements. Donc voilà, en soi, la gnose n'est pas chrétienne, elle n'est pas juive, mais la gnose chrétienne, elle s'exprime dans ce texte-là, comme l'évangile de Thomas. On la retrouve aussi avec une vision un peu platonicienne, avec cette idée, vous savez, que ce qui est beau, bien, bon, parfait, et dans les cieux, c'est l'idée. Et puis, quand l'idée se répartit dans la chair, dans le matériel, elle se divise, elle devient multiple, c'est moche, c'est sale, on a perdu l'unité. Et donc, on cherche un messager qui va pouvoir venir nous récupérer dans nos poussières d'humanité pour nous ramener un peu vers le tout originaire. Donc la gnose chrétienne, elle se conçoit un peu autour de ça, et Jésus devient un peu ce messager, chargé de traverser la diversité pour la ramener vers l'unité. Mais ça se paie. Plutôt, ça s'obtient. C'est-à-dire qu'on ne considère pas dans la gnose que ça doit être donné à tout le monde, ça doit être le fruit d'un effort. C'est aussi pour ça que cette spiritualité a eu à la fois beaucoup de succès et s'est cassée la figure. C'est parce que l'effort, ça attire un certain nombre de gens, mais ça ne dure qu'un. En plus, c'était des communautés où le corps étant banni, le sexe l'était aussi, et donc c'est des communautés qui se reproduisent quand même beaucoup moins bien, il faut le dire. Voilà la première parole, le premier verset de l'évangile de Thomas. Et il a dit, donc on suppose que c'est Jésus, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ça amusant parce que ça nous rappelle quand même très fortement un verset de l'évangile canonique de Jean, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Mais voyez la différence aussi fondamentale qu'il y a entre ces deux versets. Gardez la parole, vous la recevez, vous la gardez. C'est le minimum de l'effort que vous pouvez faire. Trouvez l'interprétation des paroles. Là, il y a du boulot. Là, il y a quelque chose qu'on fait à la force du poignet. On s'exerce, on s'entraîne, on va y arriver. Donc voilà, lisez dans l'évangile de Thomas, c'est de chercher. Du coup, c'est aussi ce qui fait la difficulté de ces textes-là. Et donc, quand vous irez lire l'évangile de Thomas, soit en ligne, soit dans la Pléiade, vous vous direz, je ne comprends rien, c'est normal. Ça n'est pas fait pour que vous compreniez. C'est fait pour être compliqué. Voilà la deuxième parole, Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé et il règnera sur le tout. Vous voyez que là, on est assez loin du Jésus dont on a l'habitude. On est là assez loin du laisser venir à moi les petits-enfants. Mais on a cette idée d'échelle, de degré, de montée et de revenir à ce tout. Donc vous imaginez aussi les idéaux de pureté qui peuvent y avoir derrière, de la part de chrétiens qui ont vraiment un profond mépris du corps et un grand souci de détachement des choses matérielles. Je vais vous citer encore un passage de l'évangile de Thomas parce que je le trouve très révélateur. Donc là, c'est si vous avez le temps de lire, mais vous n'avez pas le temps. Il leur répondit, donc c'est le logion sans, la parole sans. Il leur répondit, donnez à César ce qui est à César. Je ne vous ai pas mis le début, j'aurais pu. Ils montrèrent à Jésus une pièce d'or et lui dirent, les hommes de César réclament de nous des impôts. Il leur répondit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et donnez à moi ce qui est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Dans les synoptiques, ce sont les adversaires de Jésus qui posent la question, et c'est un piège. Ici, ça n'est pas un piège, c'est les disciples qui posent la question. Alors, c'est pas explicite dans ce que je vous ai lu, mais c'est ici dans le contexte. Donc, c'est pas un piège. Dans les deux cas, on présente une pièce d'or à Jésus. Ici, c'est un noob, donc le mot égyptien, pour dire une pièce d'or, c'est-à-dire un mois de salaire. Est-ce qu'on se balade vraiment avec un mois de salaire? Je ne sais pas. Et puis, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a affaire à une christologie très haute, en fait? César, Dieu et moi. Alors, c'est bizarre, ça ne va pas dans nos habitudes, mais après peut-être. Mais là où on commence à tiquer, c'est que le mot Dieu n'est pas ailleurs dans l'évangile de Thomas. D'habitude, Thomas dit le Père. Sinon, il dit les dieux. Et les dieux, ce n'est pas son équipe, c'est l'équipe d'en face. Jésus dit Père pour parler de son Père. Je peux vous mettre, donc ça j'avais mis, mais ça vous le connaissez. Je vais vous mettre un exemple, c'est le verset juste avant dans l'évangile de Thomas. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère se tiennent dehors. Il leur répondit, ceux que voici qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et ma mère, ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Ce qu'on comprend, en fait, dans l'évangile de Thomas, c'est qu'effectivement, il y a une progression. César, c'est le Dieu terrestre, ça on est d'accord. Il y a moi. Moi, c'est Jésus, et Jésus, il vient de ce tout originel. Donc il est effectivement dans ce qui est au-dessus de tout. Mais Dieu, pour les gnostiques, ici, c'est celui qu'on appelle le démiurge, c'est-à-dire l'artisan créateur, celui qui a fabriqué le monde. Et je vous ai dit, pour les gnostiques, le monde, c'est mal. Donc ça ne peut pas être le même Dieu qui est le Père, qui est le Père de Jésus, qui est dans le tout, qui est uniquement dans le beau, le bien, le parfait, l'unique. Ça ne peut pas être le même qui a fait le monde. Que le monde, c'est la boue, la diversité, la matière, voilà. Donc, Dieu, ici, c'est ce Dieu créateur, ce Dieu artisan, ce Dieu un peu intermédiaire. Et dans la conception théologique des auteurs de l'évangile de Thomas, il y a effectivement une hiérarchie. Il y a la terre, César, il y a l'artisan créateur, le démiurge, et puis au-dessus, il y a Jésus qui est venu de ce tout pour nous sauver, pour sauver les hommes. Et donc là, comme ça, ça s'accorde avec cette théologie qui est contre le monde matériel et contre le corps. Ce mépris du corps, il se voit aussi, alors je n'ai pas pu résister, du coup je vais le donner jusqu'à 10h pile. Le dernier logion de l'évangile de Thomas, comme j'ai mis l'Esprit Saint à ma mère, je vais vous le mettre, parce que Simon Pierre leur dit que Marie nous quitte car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Poum, poum, poum. Jésus, j'ai été sympa, pour la traduction, j'ai mis V majuscule S. Hein, pour vous dire que ça a peut-être un sens religieux, et pas juste qu'il faut les égorger. Jésus dit, voici moi, je vais la guider afin de la faire mâle, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant semblable à vous, les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Et ça, c'est fantastique, parce que ça veut dire que les femmes peuvent entrer dans le royaume des cieux. Et bien, dites-vous que ça n'était pas gagné. Alors, je suis d'accord qu'on est au 21e siècle, et qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. Dans la pensée gnostique, le monde matériel est perçu comme femelle. Globalement, dans la pensée antique, ce qui est féminin, c'est la matière, ce qui est masculin, c'est l'esprit. Dans la conception du monde d'Aristote, la femme fournit la matière pour le bébé, l'homme fournit globalement l'âme, l'esprit, ce qui va donner forme à la matière. Et le monde spirituel, il est supérieur, il est mâle, et la femme, elle est incomplète, elle est faible, elle est passive, elle est du côté du matériel. Donc, pour un gnostique, c'est normal, le vrai disciple, c'est celui qui rejette le monde physique et qui embrasse le monde spirituel. Et là, même les disciples mâles, en fait, vont être appelés à sortir de leur matérialité de mâle, elle va devenir un esprit vivant, comme peuvent le faire les mâles. Donc la syntaxe est misogyne, mais ça n'est pas du tout une attaque de la féminité. C'est qu'au contraire, on utilise le langage genré des cercles gnostiques pour dire qu'il y a un état spirituel idéal qui est requis de tous les disciples, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ça, c'est génial, parce que Marie-Madeleine, alors Marie ici, c'est Marie-Madeleine, même si elle est femme, elle va pouvoir devenir un esprit, elle va pouvoir entrer dans le royaume, elle va pouvoir remonter dans le tout. Réjouissons-nous, plus optimiste que ça en est. Et donc, je ne vais pas prendre le temps de vous parler de l'évangile de Judas, qui a été, lui, trouvé à Minya, donc c'est pas très loin de Syrinque, dans des conditions très très bizarres. Alors c'est un texte qui nous était connu, le titre nous était connu par notre fameux Irénée de Lyon dont on a déjà parlé. Et puis on est tombé sur ce codex-là en Égypte dans les années 78 sans doute, découvert par un paysan dans une caverne. Il y avait quatre manuscrits dans une boîte en calcaire, un peu comme un Nag Hammadi. Et le marchand d'antiquité qui l'a trouvé a pris contact avec un prof américain. Le prof américain a dit « Oui, c'est tout à fait intéressant. » Et le marchand d'art lui a dit « Très bien, 3 millions. » Donc le prof américain a dit « Ben voilà, non. » Même un prof américain dans les années 80 ne pouvait pas acheter un codex à 3 millions. Donc il est resté dans un coffre de banque à New York jusqu'à sa vente en 2000, où il a été acheté, alors pour seulement 300 000 dollars, parce que le marchand avait besoin d'argent, à une marchande d'art suisse au passé un peu trouble, qui s'appelle Frida Tschakos-Nussberger, on l'appelle le codex Tschakos. Elle l'a revendu à un antiquaire américain qui l'a fait congeler parce qu'il pensait que ça tuerait ainsi la vermine qui détruisait le papyrus. Pas de chance, c'est le papyrus que ça a détruit. Ça l'a considérablement fragilisé, c'est-à-dire que la fois suivante où on l'a pris dans les mains, il est quasiment tombé en miettes. Cet antiquaire l'avait acheté, mais finalement il n'avait pas assez d'argent pour payer, donc il l'a redonné à Frida Tschakos. Et Frida Tschakos l'a fait acheter par une fondation suisse, la fondation Mécénas, qui l'a restauré. Ça, ça a coûté effectivement très très cher. Et donc pour avoir un retour sur investissement, la fondation Mécénas s'est associée au National Geographic, et ils ont fait un buzz en avril 2006, en publiant le même volume en quatre langues, français, anglais, italien, etc., l'évangile de Judas, donc un peu sous-entendu la vérité sur Jésus-Christ, cette première traduction d'un texte copte. Alors ça a posé plein de problèmes, parce qu'ils ont publié la traduction, mais le texte a été publié seulement après. Et vous voyez l'état du manuscrit, il y a énormément de reconstitutions de textes à faire. Donc ça a suscité énormément de débats, donc cette traduction-là que je vais vous inviter à consulter, aujourd'hui elle est très discutée, contestée, voire à mettre à la poubelle, parce qu'il y a des tas de passages qu'on comprend différemment, le texte ne fait plus autorité. Ça c'est juste pour évoquer la difficulté qu'on a avec ces textes qui n'existent que par un exemplaire. Quand votre exemplaire est abîmé, vous êtes bien embêté. Alors l'évangile de Judas, ça s'appelle le discours caché de la déclaration que Jésus a fait à Judas Iscariote pendant 8 jours, 3 jours avant qu'il célèbre la Pâque. Donc c'est un texte qui s'insère avant Matthieu 14, Marc 14, si vous voulez. Il y a tous ces récits de où allons célébrer la Pâque avec les disciples, je cherche un endroit, etc. Ben là, on est dans cette période. Et voilà tout ce que ça nous dit sur Jésus. Étant apparu sur la terre, il fit des signes et de grands miracles pour le salut de l'humanité. Et certains marchaient dans le chemin de la justice et d'autres marchaient dans leur transgression. Puis les 12 disciples furent appelés, commença à s'entretenir avec eux des mystères qui concernent le monde et de ce qui arrivera à la fin. Et nombre de fois, il n'apparut pas à ses disciples, mais voilé, on le trouvait au milieu d'eux. Hein, quelqu'un un petit peu bizarre dans son identité. Et il arriva au Judée auprès de ses disciples. Donc en fait, tout ce qu'on nous dit sur Jésus dans ce texte, c'est ça, c'est qu'il fait des miracles, des signes et des miracles. Et visiblement, ça n'intéresse pas du tout l'auteur du texte. Ce qui intéresse l'auteur du texte, c'est la révélation particulière que Jésus fait à Juda. Pourquoi ? Alors, on ne va pas avoir le temps de regarder le détail, mais l'idée, c'est que Judas est à part des 12. Les 12 sont considérés vraiment comme étant du côté de la matière. C'est-à-dire qu'on est encore dans un texte gnostique, et en gros, les 12, mais on le voit un peu dans les évangiles, ils ont du mal parfois quand même à comprendre. Ils ont du mal à être dans la même réalité que Jésus. Voilà. Bon, ben là, dans l'évangile de Judas, il n'y arrive pas du tout. Et le seul qui a l'air de percevoir un peu, c'est Judas. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où le texte a été publié, la traduction était « Je te dirai les mystères du royaume, il te sera possible d'y parvenir. » Donc on avait l'impression que Judas était un peu l'exception, quoi, le seul qui finalement arrive vraiment à percevoir un truc. Mais aujourd'hui, quand on retraduit le texte, le consensus des chercheurs, c'est plutôt « Je te dirai les mystères du royaume, non pas pour que tu y entres, mais pour que tu gémisses abondamment. » Donc il a un autre statut finalement, il n'est plus un dépositaire secret, il est quelqu'un qui va peut-être mieux comprendre certaines choses, mais il n'est pas sauvé pour autant. L'autre grand débat dans l'évangile de Judas, c'est que dans la première édition, je vais rester sur le passage de la fin, Judas éleva son regard, vit le nuage lumineux et il y entra. Et donc on s'est dit, waouh, il y a Judas qui connaît une sorte de transfiguration et rentre dans le nuage. Voilà, sort de la terre, c'est l'apothéose du disciple. Et le problème, c'est que depuis, on a retrouvé cette phrase. Et Judas, c'est ça de voir Jésus. On a retrouvé grâce à une photo qui avait été faite du fragment. Et puis on a fait de la grammaire copte. Et on s'est dit, mais en fait, ça va pas. Cette phrase-là, en grammaire copte, à cause de du « et » qui est là, qui est différent du « et » qui est là, il faut la comprendre. Judas, elle va son regard et vit le nuage lumineux. Et lui, y entra. Donc et Jésus lui entra. Donc là, je vous le dis très rapidement, mais c'est pour vous dire que c'est un texte qui a fait le buzz en disant « ça y est, on a Judas, le disciple presque encore meilleur que Jésus, qui connaît son apothéose, sa transfiguration ». La note dans le volume, c'est « ce passage peut être décrit comme la transfiguration de Judas ». Mais aujourd'hui, 20 ans après, les nombreuses études qu'on a fait sur le texte, en fait, ont fait relativiser cette affaire. Et donc je vais terminer là-dessus, sur cette idée que on est obligé d'être extrêmement précautionneux avec ces textes-là, parce qu'en fait, on les connaît depuis très peu de temps. L'évangile de Pierre, on le connaît depuis 150 ans. L'évangile de Thomas, on le connaît depuis 70 ans. L'évangile de Judas, on le connaît depuis 20 ans. En fait, sur l'évangile de Judas, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de consensus des chercheurs. Les gens ne sont pas d'accord pour dire ce que ça veut dire, comment il faut comprendre le texte, dans quelle théologie il s'inscrit, parce que c'est trop récent. Il faut qu'on travaille encore, il faut qu'on publie encore, pour pouvoir comprendre ce texte qui en plus est très subtil et très compliqué parce que c'est un texte gnostique. Il ne cherche pas à faire en sorte que vous le compreniez tout de suite. Donc en conclusion, on va mettre toutes les images d'un coup, voilà. Donc retenons peut-être cette idée que parmi les textes qui nous parlent de Jésus en dehors du Nouveau Testament, on a trois catégories, les textes non chrétiens, les historiens de l'Antiquité qui parlent incidemment alors, de Christ, les textes chrétiens qui ont toujours été connus, et les textes chrétiens qu'on a retrouvés récemment. Ils ne nous apprennent rien sur le Jésus historique, ils nous parlent beaucoup plus du Christ de la foi, le Christ derrière lequel se rassemblent les chrétiens, qui sont les empereurs, ou le Christ que prient les différentes communautés, en Syrie, en Égypte, en Palestine. Pourquoi ils ne nous parlent pas du Jésus historique? Alors clairement pour les gnostiques, parce que c'est pas si faux. Puisque l'incarnation ne compte absolument pas, c'est même juste une apparence pour les gnostiques. Ce ne sont pas des traditions cachées ou mystérieuses sur l'homme Jésus, ce sont des façons pour différents types de chrétiens d'exprimer leur foi dans le Fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous aide aussi à comprendre les évangiles canoniques. Ça, c'est vraiment une découverte qu'on a fait dans les 50 dernières années, c'est qu'en travaillant sur les apocryphes avec cette notion de communauté qui produit un texte qui lui correspond, dont la théologie lui correspond, on a fait aussi progresser le travail sur les évangiles canoniques, en se disant, mais en fait, eux aussi, ils produisent une théologie qui leur correspond. Donc on comprend mieux aussi les évangiles canoniques grâce au travail un peu d'atelier qu'on a fait avec les évangiles apocryphes. Et retenez aussi que les apocryphes ne forment pas une unité, mais que c'est vraiment des textes de contenu de caractère très différent. C'est pour ça que j'ai remis la Pléiade pour que vous n'hésitiez pas à aller la lire. Si vous pensez que vous avez besoin d'un cours ou d'une introduction sur les apocryphes, il se trouve qu'il y a un cours donné sous forme de session à l'Institut catholique de Paris les 15 et 16 avril, où je serai ravie de vous accueillir pour vous présenter un peu plus de matière sur les apocryphes. C'est sous forme de, c'est sur 2 jours, donc on peut tout à fait quitter Belfort le mercredi matin, arriver à Paris, suivre le cours, dormir une nuit, repartir le lendemain soir. Tout est très bien prévu pour ça. Pour l'heure, vraiment, merci pour votre attention. Pardon, j'ai du coup duré 1h15, mais c'est peut-être le moment de discuter entre nous pour préparer des questions.